à la maison, c'était pas souvent rose. C'était, qui dit des fois fratrie, dit frère et sœur, dit pas forcément des fois, comme j'ai dit, toujours rose. Des fois, ça rime aussi avec conflit, avec dispute et aussi rivalité. Et moi, j'étais le dernier. Donc, niveau rapport de force, voilà, je pense que vous avez compris. Et il nous arrivait des fois, en fait, comme je vous ai dit, de nous disputer. Et je me souviens d'une fois, avec ma sœur, où on faisait un jeu de société avec tous mes frères, et ma sœur était à côté de moi, et en fait, elle m'avait surpris en train de tricher. Et une dispute avait éclaté, je devais avoir à peu près 15-16 ans, donc j'étais quand même pas trop jeune, et en même temps jeune. Et en fait, une dispute, comme j'ai dit, avait éclaté, et ça a amené en fait à ma sœur de ne plus me voir comme mon frère, mais comme un tricheur. Et pendant longtemps, surtout ce jeu en particulier a été banni de notre famille. Pourquoi ? Parce que j'étais vu comme le tricheur. Et pendant longtemps, ça a été très dur pour ma sœur de me pardonner. Et en fait, quand quelqu'un t'a fait du mal, plus encore quand cette personne est proche de toi, combien il est dur de pardonner. Il est difficile de pardonner même à des personnes qu'on ne connaît pas trop, mais à des personnes qui nous connaissent encore plus proches, qui connaissent vraiment notre identité, combien c'est difficile de pardonner. Est-ce qu'il est même possible de se réconcilier quand le tort est trop important, avec un ami, avec mon frère, avec ma sœur, avec mon père, avec ma mère, avec ma femme, avec mon mari, et même des fois avec Dieu? Et qu'en est-il quand on est chrétien? Qu'en est-il même dans l'Église? Est-ce que le pardon peut être vécu? Et c'est ce que nous allons voir ensemble avec la lettre de Paul à Philémon. Et voici en fait le message que j'aimerais vous dire dès aujourd'hui, le message central de cette lettre. Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis en lui. Et donc, en Philémon. Donc je vous invite à lire ensemble le texte qui sera aussi affiché, mais je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et si tu as fait du tort ou te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Est-ce que vous avez déjà lu un livre en à peine 3 minutes? Eh bien là, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà ce que j'aimerais rappeler aujourd'hui. Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis en lui. Comme j'ai dit, on vient de lire en fait un livre de la Bible en à peine 3 minutes. Philémon est la lettre la plus courte écrite par Paul. Mais nous ne nous laissons pas berner par la taille de la lettre, car son contenu, en fait, n'est pas des moindres. Je vais vous parler un petit peu de l'arrière-plan de la lettre qu'on peut construire à partir des détails de la lettre. Philémon, lui, est un citoyen romain de Colosse, de la ville de Colosse. Il a sûrement rencontré, on pense, Paul dans son dernier voyage quand il est passé à Éphèse. Et comme on l'a lu dans la lettre, c'est par Paul que Philémon est devenu un disciple de Jésus-Christ. Plus tard, un ami de Paul, Épaphras, crée une communauté, une église dans la ville de Colosse, où des chrétiens se retrouvent dans une grande maison. Et en fait, cette grande maison, c'est la maison de Philémon. Donc, avec ces petits détails, on voit que Philémon est donc un propriétaire riche. Il a une maison, une grande maison, capable d'accueillir l'église entière. Et c'est aussi un riche propriétaire. Il a des esclaves. Il possède des esclaves, comme on pourrait dire. Et dont l'un s'appelle Onésime. Et à un moment donné, entre ces deux personnes, Philémon et Onésime, il y a un conflit. On ne sait pas trop la nature du conflit, mais on peut douter peut-être d'un vol, de quelque chose. Mais en tout cas, ce conflit déclenche la fuite de Onésime. La seule fuite pour lui à ses yeux, c'est de fuir très loin de chez lui, et même jusqu'à Rome. Je ne sais pas si vous voyez un peu la carte de l'Europe, mais la Grèce est quand même vachement loin de Rome. Et au bout d'un moment, Onésime se retrouve à rencontrer Paul, qui est emprisonné à Rome. On ne sait pas si lui-même a été emprisonné, ou alors c'est par des circonstances qu'ils se sont rencontrés, mais en tout cas, ils se rencontrent ensemble à Rome. Et c'est là, en fait, que tout bascule pour Onésime. C'est à ce moment-là que Onésime, lui-même, devient disciple de Jésus en l'acceptant dans sa vie, et bien sûr, tout ce qui découle de croire en Jésus. Il devient, comme le dit Paul même, son collaborateur, et même plus, il l'appelle son enfant. Ils travaillent ensemble. Et suite à ces événements, en fait, Paul se retrouve dans une situation délicate. Onésime appartient à Philémon. Philémon a tous les droits sur Onésime, la vie comme la mort. Mais aujourd'hui, la grosse différence, c'est que Philémon est chrétien. Et surtout, Onésime, maintenant aussi, est chrétien. Si Philémon pardonne à son esclave, que penseraient les gens de la ville? Que penseraient les riches propriétaires comme lui s'il le punit? Qu'en est-il de son témoignage dans l'église? Il accueille l'église chez lui, dans sa maison. Que pensera tout simplement les personnes qui côtoient l'église, peut-être au quotidien? Et voilà ce que je vous propose de découvrir ensemble. Donc on va parcourir la lettre, et pour le moment, donc on va s'arrêter dans les versets 1 à 7. Alors je vais vous demander un peu d'imagination. Vous êtes à la place de Philémon, d'accord ? C'est assez facile d'un homme de se représenter dans un corps d'un homme, mais voilà, une fille peut-être. Retrouvez-vous dans Philémon, ok ? On ne va pas vous voir... Ah, bref, je vais m'arrêter là. Pour l'imagination, assez bizarre. Mais imaginez-vous à la place de Philémon. Vous êtes là, et il y a un ami qui vient vers vous et qui vous apporte deux lettres. Une qui est pour votre église, l'église de Colosse, il vous l'attend, et il y a aussi une deuxième enveloppe qui est adressée à vous, personnellement. Donc vous prenez le papier, celle qui vous concerne, vous l'ouvrez, vous la lisez, vous regardez votre ami, vous lisez, et vous voyez donc que cette lettre vous parle directement. C'est un ami qui vous écrit. Vous regardez votre ami, et en fait, vous voyez un peu discrètement qu'il y a une deuxième personne qui est là, qui est cachée, qui est très discrète. Et son vœu le plus cher, si elle pouvait le faire, ça serait de disparaître. Et avant, vous vous rappelez qu'en fait, vous avez eu un conflit. Et quand vous revoyez la personne qui est derrière, en fait, ce conflit vous revient en pleine face. Parce que vous vous rappelez que cette personne qui est cachée, c'est cette personne qui vous a fait un tort. Et bien, c'est exactement en fait ce qui se passe. Parce qu'en fait, on voit dans la lettre aux Colossiens que les deux lettres sont apportées au même moment. Ça, on le voit en Colossiens 4. Tychique, en fait, un ami de Paul, et Onésime apportent les deux lettres au même moment. Donc Colossiens 4, versets 7 à 8, on trouve Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle de mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Et nous retrouvons en fait les mêmes personnes partenaires dans les salutations des deux lettres, celle de Colossiens, mais aussi celle de Philémon. Paul écrit cette lettre à Philémon, et la majorité des lettres de Paul sont pour des églises. Et là, c'est une lettre personnelle. Et Paul se présente comme le prisonnier de Jésus. Dans toutes ses lettres pour les églises, Paul commence ses lettres en disant « de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Paul, là, en fait, ce qu'il veut traduire, c'est qu'il veut se mettre de cœur à cœur avec son ami. C'est une lettre personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans une lettre personnelle, Paul va inclure des gens avec lui. On voit qu'il n'est pas tout seul. Il inclut ses amis. Et on voit toujours qu'en fait, ce qui tient à cœur, Paul, c'est la mission. Et que la mission, ce n'est pas tout seul, mais c'est un travail d'équipe. Donc Paul commence sa lettre par une prière en mettant en avant Philémon, en remerciant Dieu pour sa foi en Jésus, de son amour, de sa fidélité envers Dieu et de sa bienveillance pour les autres. Il y a du respect. On peut voir du respect entre ces deux personnes. Puis, en fait, Paul va préparer sa requête par cette phrase qu'on voit au verset 6 de Philémon. Je lui demande, donc à Jésus, que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Le mot ici, le mot clé, c'est le mot participation. Ou alors partenariat, et en grec, c'est un mot qui se traduit par, qui se dit koinonia, qui veut dire en fait partage, une participation mutuelle. C'est lorsque deux ou plusieurs personnes reçoivent quelque chose ensemble et le partagent. C'est un peu si vous invitez un ami à manger, et en fait, le repas, ça va être ce que les gens partagent. Et le plus souvent, vous invitez pas un étranger, mais vous invitez des amis à manger. On peut aussi Koinonia veut dire aussi amitié, partage, ami. Et Paul dit que la fidélité à Jésus signifie reconnaître que tous ses disciples sont des frères et sœurs égaux qui partagent ensemble le don de l'amour de Dieu et de sa grâce. Et pour Paul, cette expérience de partage, de koinonia, parmi les disciples de Jésus, n'est pas juste une idée théorique à laquelle on pense, quelque chose de philosophique, mais c'est quelque chose que l'on concrétise dans nos relations. Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis à lui, en lui. Paul termine cette section en remerciant Philémon pour son amour, qui est un encouragement pour Paul. Ses amis et même l'église de Colosse, ce qui permet à Paul de faire la transition avec sa demande, le cœur du message et sa requête. Donc c'est du verset 8 à 16. Paul commence cette section au verset 8 par un « c'est pourquoi ». On pourrait aussi dire « par conséquent ». Et Philémon est reconnu en fait dans l'Église par Paul comme quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un pour qui on a une bonne estime. Peut-être que dans votre tête, vous pensez à quelqu'un qui a tous ces adjectifs, quelqu'un qui est peut-être bien vu, à laquelle vous pensez. Moi, dans ma tête, j'ai quelqu'un et quand je vois cette personne, j'ai envie de ressembler à cette personne. Et bien, Philémon, c'est un peu cette personne. Et ce « c'est pourquoi » est une nouvelle occasion, en fait, de mettre le cœur de Philémon et sa bienveillance et son amour en action. Et Paul, en fait, ne veut pas faire cette demande qui lui tient vraiment à cœur, par son autorité d'apôtre. Mais comme il le dit au verset 16, c'est au nom de l'amour, avec un grand A. Il parle de quelque chose de plus fort, de ce lien qui nous unit tous, en fait. En Jean 13, versets 34 à 35, Jésus parle à ses disciples et leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Paul veut encourager Philémon à mettre ce commandement de Jésus en action. Et en fait, Paul veut aller encore plus loin. Il parle de lui-même comme d'un vieillard et d'un prisonnier. Il parle, comme j'ai dit depuis le début, il parle de cœur à cœur. Nous voyons aussi le changement de ton de Paul. Jusqu'à maintenant, cette section était écrite à la première personne du pluriel, avec le « nous ». Il englobait en fait Paul et ses amis, et maintenant, cette demande est personnelle. Onésime, en fait, est cher aux yeux de Paul. Il l'appelle « mon enfant ». C'est fort. J'ai une question pour vous. Savez-vous ce que signifie le prénom Onésime ? Je ne sais pas si vous savez, mais tous les prénoms ont une signification. Moi, par exemple, donc Étienne, ça veut dire couronne. Mais est-ce que vous savez ce que signifie le prénom Onésime ? Onésime veut dire utile. Et c'est pourquoi, en fait, Paul dit à Philémon, au verset 11, si vous voulez regarder avec moi, « Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. » On ne sait pas si ce prénom Onésime a été donné à Onésime à sa naissance, ou alors si c'est Philémon qui lui a donné un nom d'esclave et qui l'a appelé utile. Mais en tout cas, Paul veut vraiment utiliser ce mot ici. Et en fait, la grosse différence, c'est que quand Paul regarde Onésime, il ne voit pas un esclave. Il voit son enfant dans la foi. Il l'a vu grandir, il a vu Jésus grandir en lui, il a vu Jésus dans leur relation. Paul ne s'est pas arrêté aux compétences de l'esclave. Mais aujourd'hui, Paul considère qu'Onésime lui est utile. J'ai encore une autre petite question pour vous. Vous savez tout ce que c'est ? C'est une boule de pâte. Comment on est passé de ça à ça ? La parole est à vous. J'entends des mots. Comment on est passé de ça à ça ? Alors, la réponse a été trouvée. Pour passer de ça à ça, on l'a étalé avec un petit indice qu'on voit sur le côté, avec un rouleau. Sans rouleau, il aurait été difficile d'étaler cette pâte. Nous avons eu besoin du rouleau à pâtisserie pour étaler cette pâte. Et si ton rouleau est ton objet du quotidien dans ton travail, tu ne vois pas ton travail sans ce rouleau. Tu es bien content de l'avoir. Mais imagine, tu te dis, il serait vachement utile mon rouleau à la personne qui est juste à côté là, qui essaye désespérément d'étaler sa pâte avec ses mains, peut-être même avec un autre outil, de forme carrée peut-être. Qu'est-ce que tu fais avec ton outil, avec ce rouleau qui est tellement utile ? Est-ce que tu... Pardon ? Tu le prêtes ? Peut-être. Mais oui, est-ce que tu le gardes pour toi ? Ou alors tu le prêtes, ou même tu le donnes à cette personne ? Onésime est utile à Paul. Et aussi à Philémon, maintenant, car ils partagent le même centre d'intérêt, l'Évangile. Peut-être que tu te sens inutile dans ce monde. Sache qu'en fait, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il veut, comme Paul appelle Onésime, t'appeler lui aussi ton enfant. Mon enfant. Et ce titre, en fait, n'est pas réservé à une élite, mais à tout le monde, à tous ceux qui ont décidé de placer leur confiance en Jésus-Christ. Toutes ces personnes peuvent être appelées ses enfants. Et aussi, avant d'être appelés ses enfants, nous sommes tous, comme Onésime aussi, esclaves. Esclaves de nous-mêmes, esclaves de nos désirs. Je suis le seul à commander ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et sans s'en rendre compte, en fait, nous sommes tous pareils. Nous sommes notre seul maître. Et notre seul maître, c'est nous-mêmes. Onésime, en fait, a fui son maître terrestre. Certes, par peur, mais il a trouvé la vraie liberté en rencontrant le vrai libérateur, Jésus, par Paul. Et ce que j'aimerais nous dire à tous, c'est prenons Onésime comme exemple. Fuyons notre maître pour trouver notre vrai Père qui nous aime. Peut-être que tu te sens inutile dans l'Église même. Tu as des dons et Dieu nous appelle. Dieu a confié, à chacun de la créativité. Peut-être comme Paul, réfléchis comme ça. Quelle personne Dieu te met à cœur de prendre soin, de partager la joie de l'Évangile comme un Onésime ? Quelle personne Dieu te met à cœur de prendre soin ? Pour poursuivre, Paul décide de renvoyer Onésime chez son maître. Car en fait, légalement, Onésime appartient à Philémon. Il est sa propriété. Il l'a acheté, comme vous achèterez une voiture. Onésime n'est pas un employé qui travaillerait chez son employeur, qui gagnerait son salaire et après sa journée de travail finie, rentrerait chez lui. Sa vie entière, en fait, est liée à son maître. Et la conversion d'Onésime, en fait, ne change rien à son statut. Il reste esclave. Il est toujours esclave. Mais par sa rencontre avec Jésus, il est devenu le fils et frère de Paul, mais aussi le frère de Philémon, son maître. En Jésus, ça on le trouve aussi en Colossiens, il n'y a plus ni juif ni non-juif. il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Philémon a donc une lourde responsabilité devant lui. Il a devant lui la personne qui lui a fait du tort et sur qui il a tous ses droits, même la mort. Mais la personne qui est devant lui n'est pas la même qu'il y a quelques mois. Car maintenant, cette personne a la même foi, la même espérance que lui, mais aussi maintenant le même esprit en lui, mais aussi en Philémon, en Paul et en tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Cet esprit qui a ressuscité Jésus, l'Esprit de Dieu. Mais Paul n'est pas simplement en train de demander à Philémon de pardonner Onésime, mais d'accueillir son ancien esclave à Colosse sur le même plan social, comme un membre de la famille. Ceci, en fait, est beaucoup plus que de la gentillesse. Ceci est inédit. Il est question de rendre un esclave libre et de l'accueillir dans sa famille, même comme un fils. Et en fait, cela bouleverse le statu quo des Romains. Même aujourd'hui, c'est quelque chose d'impensable. Pourquoi Philémon ferait-il une chose pareille ? Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis en lui. Nous allons maintenant arriver dans la dernière section. Dans cette dernière partie, nous allons voir la réelle nécessité du pardon qui conduit à la réconciliation. Alors, si tu as fait un petit somme pendant le temps que j'ai parlé, c'est la partie la plus importante. Paul continue sa lettre au verset 17. Il rappelle ce mot clé de sa prière d'ouverture. Il dit « Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. » Le mot ici « ami », c'est le même mot que tout à l'heure, j'avais employé le mot « koinonia ». Paul demande à Philémon d'accueillir Onésime comme si c'était lui-même. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. En fait, dans cette requête, nous voyons le cœur du message de l'Évangile mis en œuvre, mis en action. Il s'agit d'une réconciliation. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, en Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui en pardonnant aux gens leurs péchés et en les rachetant. Dans cette situation, Paul prend exemple sur Jésus. Il l'imite. Il prend les conséquences du tort causé par Onésime et il payera le prix afin qu'il puisse être réconcilié avec Philémon. Et Paul va plus loin qu'un remboursement. Onésime et Philémon sont tous, et même Paul, sont tous unis par Jésus, égaux devant Dieu. Ils partagent tous le même besoin de pardon. Ils sont tous égaux devant la croix. Ce qui signifie que Philémon et Onésime ne peuvent plus se traiter l'un et l'autre comme maître et esclave. Mais ils sont membres d'une seule et même famille. Ils sont frères en Christ. Ou comme Paul l'a dit à Philémon et à l'église des Colosses, dans la famille de Dieu, il n'y a plus ni esclave, ni de maître, mais le Christ est tout en toute personne. Vous voyez, les deux lettres sont connectées. Jésus, en acceptant de mourir sur la croix, paye la mort et l'éloignement éternel qui nous sépare de Dieu. Il paye la dette impayable, à notre place. Il échange sa vie parfaite, sans défaut, contre la nôtre et meurt volontairement sur la croix. Par ce remboursement ultime, nous changeons de statut. Nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes, de notre péché. Nous devenons les enfants de Dieu. Nous sommes sa famille. Et ce pardon, il est offert à tous. Le thème du pardon est un thème central dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. Que ce soit dans la prière que Jésus dit, « Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pierre qui demande à Jésus combien de fois il devrait pardonner à son frère. Jésus qui lui répond 7 fois, 70 fois. Encore une fois, quand Jésus est crucifié sur la croix, qui est devant ses bourreaux et qui déclare « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou bien Jésus qui est ressuscité 3 jours après sa mort, qui apparaît dans la maison où se cachent ses disciples. Ça, on le retrouve en Jean. Et il leur déclare les premiers mots que Jésus leur dit, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après sa parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Le pardon est quelque chose de dur à faire, à donner. Surtout, comme j'ai dit dans mon introduction, quand la personne en face est quelqu'un que l'on considère comme proche. Quand quelqu'un de proche te fait quelque chose de mal, que tu considères mal, ça te touche en plein cœur. C'est une tâche. Et quand tu vois cette personne, tu penses toujours à ça. Mais quand le pardon est vécu, il est un bon fruit. Si nous ne nous pardonnons pas entre frères et sœurs, alors que nous-mêmes nous avons reçu le plus grand pardon qui ne puisse être accordé, alors oui. Oui, c'est facile à dire. Mais garder rancœur, en fait, est plus facile. Mais comme Paul le dit à Philémon, je te le prie, au nom de l'amour, avec un grand A. Jésus, lui, n'a pas gardé rancœur envers ses disciples qui l'ont abandonné, qui se sont cachés, qui ont eu honte de lui. Jésus, lui, leur a même donné un cadeau inestimable. Il leur donne le Saint-Esprit. Et il le donne aussi à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il nous équipe. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne sous-estimons pas l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille notre cœur. Dieu, par son esprit, nous parle. C'est lui aussi qui nous donne la force d'aller voir la personne qui nous a blessés, d'aller voir l'autre. Faisons confiance aussi au Saint-Esprit, car il vit aussi dans le frère qui nous a fait du mal et dans la situation aussi inverse. Faisons confiance à Dieu, que lui aussi puisse accepter pleinement le pardon, que la personne en face de toi puisse aussi accepter pleinement le pardon. Non pas, comme je l'ai dit, comme de la gentillesse ou par courtoisie, mais avec sincérité. Et vive le pardon comme Jésus nous appelle à vivre. Prie pour ceux qui t'ont fait du mal. Pense à ceux qui t'ont aussi pardonné. Et va voir ton frère, ta sœur, et pardonne. Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis en lui. Paul termine sa lettre avec la confiance, en disant qu'il a confiance en Dieu de pouvoir bientôt aller les voir et donc voir cette réconciliation. Il a confiance en ça. Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis en lui. Et pour conclure, cette lettre nous montre les conséquences de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle nous montre que pour Dieu, la valeur des personnes n'est pas définie par leur classe sociale, par leur race ou leur sexe. En Christ, il y a seulement des nouveaux hommes et femmes unis qui partagent ensemble la grâce de Dieu et la mettent en action. Dans beaucoup de ces lettres, Paul parle à un moment donné des esclaves. Il leur demande d'être soumis à leur maître et au maître de ne pas opprimer leurs esclaves. Mais dans cette lettre, c'est vraiment du concret. Ce n'est pas de la théorie, mais c'est de la pratique. Et moi, je vous invite aussi de passer de la théorie à la pratique. Par son appel, Christ nous fait devenir frères et sœurs et nous demande d'être unis. Merci. Je vais terminer par prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton œuvre. Merci parce que tu n'es pas resté, toi aussi, de la théorie à la pratique. Toi, tu es passé à la pratique pour la gloire de ton nom. Tu es venu, tu as souffert pour nous sauver, pour nous réconcilier, pour nous pardonner. Alors Seigneur, je te prie que, comme ton image, on puisse encore refléter ton image, ton amour, ta grâce, ton pardon, pour nous-mêmes mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Amen.